Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Pékin va-t-il ou va-t-elle prendre la main dans le jeu politique de l'après-Covid? Invité la sinologue Alice Ekman, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de la Chine et de l'Asie, auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois paru aux éditions de l'Observatoire en février dernier, où elle questionne la structure idéologique du pouvoir chinois. Elle vient de recevoir pour ce livre le prix du livre géopolitique. En parallèle, le Britannique Julian Jackson s'est vu lui remettre le prix spécial du jury du livre de géopolitique pour sa biographie de De Gaulle, une certaine idée de la France. Bonjour à vous, Alice Ekman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Brune, bleue, verte, de quelle couleur est la Chine? Votre réponse, rouge vif. Ceux qui pensent que la Chine n'est plus communiste se trompent. C'est le point de départ de cet essai extrêmement documenté, beaucoup d'entretiens, de rencontres pour l'écrire. Pourquoi cette méprise?
Parce que souvent on a voulu de l'extérieur projeter sur la Chine l'évolution qu'on aurait aimé voir émerger, c'est-à-dire à partir de Deng Xiaoping, une Chine qui s'ouvrait sur le monde, qui progressivement se libéralisait, en tout cas s'orientait vers une économie de marché, et beaucoup d'entreprises étrangères ont voulu voir un Eldorado dans ce marché, on voulait voir une Chine qui se réformait et qui était source d'opportunités, ce qui est en partie le cas. Et puis Deng Xiaoping lui-même a effectué des réformes et a mis en avant le pragmatisme. Et donc ce discours de pragmatisme a laissé penser de l'extérieur que l'idéologie n'était plus présente. En réalité, Deng Xiaoping n'était pas que pragmatique. Il héritait du poids du maoïsme, mais aussi il avait à faire face à l'intérieur du parti à des fervents défenseurs du communisme, à des idéologues qui continuaient à promouvoir leurs idées. Donc, il a eu dû composer avec différents éléments pour mettre en avant les réformes. Et puis, progressivement, cette hypothèse que la Chine n'était plus communiste s'est installée dans le débat de manière assez stable, assez solide, jusqu'au point où elle n'était plus remise en question. Et c'était en partie normal parce qu'on voyait quand même une évolution vers une ouverture de la Chine, y compris économique, et dans certaines périodes politiques, même si l'ouverture était nuancée. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Parce qu'avec Xi Jinping, déjà non seulement depuis Deng Xiaoping, la Chine n'a jamais tourné la page du maoïsme et de l'héritage soviétique, mais Xi Jinping revient sans détour à cet héritage, en voulant renforcer le poids du parti à tous les échelons de la société, en soulignant réellement la définition même, enfin disons que la Chine aujourd'hui se revendique elle-même du communisme. Ça, ce n'est pas rien, déjà, cette revendication.
Oui, c'est ça, parce que ça commence, pardon, dans les mots, vous le dites, la Chine n'a jamais renié cet héritage-là. C'est pas une idéologie de façade, c'est pas juste une proclamation.
Non, ce n'est pas juste une proclamation parce qu'elle est accompagnée de faits concrets. Par exemple, le renforcement du poids des cellules du parti dans les entreprises publiques, mais aussi dans un nombre croissant d'entreprises privées. Par exemple, le renforcement de l'enseignement du marxisme-léninisme dans les universités. Par exemple, l'accélération du recadrage de la formation des cadres pour qu'ils restent fidèles au fondement initial de la République populaire de Chine, y compris au fondement marxiste. Par exemple aussi parce que Xi Jinping lui-même se présente comme un grand penseur marxiste. Enfin, il y a une longue liste de faits, 10 constats, c'est pour ça que j'ai voulu être très factuel dans la première partie du livre, parce qu'en fait les faits sont là, même les symboles sont là, le marteau, la faucille, les couleurs, les pionniers à l'école, les slogans, un système de propagande d'héritage soviétique qui est toujours très marqué et qui d'ailleurs a joué un rôle de premier plan pendant la crise du Covid. Donc on voit vraiment qu'il y a différents éléments factuels à prendre en compte. La structuration même de l'administration chinoise tourne autour du parti. Le parti se situe au-dessus des ministères dans le processus de prise de décision, y compris le processus de prise de décision en termes de politique étrangère. Donc il y a des faits, mais il y a aussi cette communication qui elle-même est intéressante à analyser. D'où le choix aussi méthodologique de vraiment souligner les discours de Xi Jinping, ce jargon rouge qui peut paraître anachronique, mais qui est bien mentionné, répété de manière très régulière, notamment vis-à-vis des cadres du parti. Et cette communication s'adoucit lorsqu'elle est internationale. Et donc on a tendance à penser, vu de l'extérieur, que la Chine n'a plus de cadre idéologique. Mais lorsque l'on analyse les discours qui sont prononcés en interne, clairement, le cadre est là.
C'est un diplomate chinois qui vous dit, il y a un an, le communisme est un idéal vers lequel nous devons tous tendre. La Chine n'en est aujourd'hui qu'au stade du socialisme, mais le communisme est un objectif. Cela a toujours été notre objectif. C'est un idéal difficile à atteindre, comme tout idéal, mais nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Ces 10 constats, vous les écrivez, vous les présentez en ouverture de cet essai. Ça peut paraître un peu long de les énumérer, mais c'est très clair, effectivement. Constat numéro 1, les dirigeants successifs n'ont jamais renié l'identité communiste du système politique chinois. Constat numéro 2, les fondements de la gouvernance communiste n'ont jamais disparu. 3, le rôle du parti dans l'économie s'est renforcé. 4, les méthodes de propagande demeurent d'héritage soviétique et maoïste. 5, les cadres du parti suivent des séances de critique et d'autocritique et même des campagnes d'éducation. 6. Le Parti communiste chinois ambitionne toujours de gérer le quotidien des individus. 7. Le parti utilise l'art et la culture comme outil promotionnel. J'ai l'impression que je vais dépasser les 10. 8. Le parti supervise les écoles et les universités. 9. La foi marxiste est incompatible avec la pratique d'une religion. 10. Les symboles communistes et maoïstes sont toujours présents. Ça, c'est ce que vous avez étudié, analysé, ce que beaucoup de vos interlocuteurs vous ont aussi raconté. Cette politique qui, dans les faits, tend à être conforme à ces idéaux, cette réalité ou ces réalités qui ne trompent pas. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez pu analyser, comment vous qualifieriez aujourd'hui la nature du système chinois ?
Tout d'abord, c'est un système hybride. Dans le livre, je ne dis pas que la Chine est communiste, mais je dis que c'est un mélange d'identités, d'héritages soviétiques, maoïstes, de nationalisme, de pragmatisme. Donc c'est différents éléments d'une identité. Mais je souligne le fait qu'il ne faut pas sous-estimer la part de l'identité communiste dans ce mélange. En aussi relativisant l'approche idéologique, il y a un cadre idéologique, mais Xi Jinping lui-même dit que le communisme est changeant, change avec le temps, et que lui, il défend une forme de communisme qui est en accord avec son temps, qui utilise les nouvelles technologies, etc. Donc c'est un système hybride, parfois même paradoxal, parce qu'il est à la fois pragmatique et à la fois toujours faisant référence à ce cadre idéologique. Donc cette hybridité, je pense réellement qu'elle doit être prise en compte. Les aspects paradoxaux du système doivent également être notés sans essayer de gommer ces paradoxes et ces contradictions, parce que d'ailleurs Xi Jinping fait référence à un texte de Mao sur les contradictions, justement, qui était un extrait du Petit Livre Rouge. Et Xi Jinping dit oui, nous devons composer avec les contradictions, mais il ne faut pas oublier nos fondements initiaux, il ne faut pas oublier le marxisme. Et il a d'ailleurs fêté en très grande pompe le 100e anniversaire de la naissance de Marx en 2018. Ça peut faire rire de premier abord, mais c'est quand même pas rien. C'est mobiliser la majorité, la quasi-totalité de la fonction publique du pays pour célébrer la naissance de Marx. Et c'est réapprendre certains textes, c'est encore l'enseignement dans les universités, la formation des cadres. Alors bien sûr, il y a une forme de cynisme par rapport à cette communication, à cette idéologie au sein d'une partie de l'élite politique chinoise, mais quand même, elle imprègne, en tout cas, elle façonne les perceptions de la situation intérieure dans Chine, mais aussi les perceptions de politique étrangère et la vision du monde qu'a la Chine, notamment la vision des États-Unis.
Et sur la nature du régime, juste, on entend souvent le mot dictature. Celui-là, vous le validez, il n'est pas incompatible avec ces idéaux ?
Oui, bien sûr, moi j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il y a différents types de dictatures. Moi j'ai essayé de comprendre quelles étaient les spécificités du système chinois. C'est pas pour remettre en cause sa nature autoritaire, dictatoriale. C'est au contraire pour mieux la comprendre factuellement, concrètement, parce qu'il y a différents, il n'y a pas finalement un système politique unique. Bien sûr, assurément, le parti est central. C'est un parti qui détient un monopole politique, social, culturel, et de plus en plus économique sur les affaires du pays.
Avec un tel système, la Chine ne pouvait peut-être avoir qu'un train de retard, puis une longueur d'avance dans sa gestion de l'épidémie. Train de retard parce que les mots du lanceur d'alerte, les déclarations, les premiers symptômes ont d'abord été tus et cachés, puis une longueur d'avance dans une gestion dite extrêmement efficace de l'épidémie. Qu'est-ce que ça nous dit du système chinois, cette gestion de l'épidémie, pour vous, Alice Ekman ?
plusieurs choses. Il y a tout d'abord une dimension de communication très forte, puisque la Chine a communiqué d'une certaine manière autour de la gestion de crise à différentes étapes. Et elle continue d'ailleurs aujourd'hui encore à communiquer sur la deuxième vague ou les nouveaux cas qui émergent en Chine d'une façon précise qui s'inscrit plus largement dans une compétition entre systèmes politiques au niveau mondial qui vise à glorifier les succès présumés de la Chine et en contraste souligner les échecs ou obstacles présumés d'autres systèmes politiques. Et c'est pour ça que les communications assez offensives de certains diplomates chinois postés dans des pays européens n'est pas que anecdotique, elle n'est pas que liée à la crise. Avant la crise de la Covid-19, il y avait aussi des communications officielles de la part des médias chinois, de certains représentants qui soulignaient le déclin de l'Occident de manière générale.
C'est une communication uniquement à l'adresse de l'extérieur ou aussi pour l'opinion publique chinoise? C'est-à-dire, est-ce que le parti communiste vend aussi son efficacité dans sa lutte contre le virus auprès de sa population?
Oui, aux deux, les deux cibles, à la fois au niveau de la population, parce qu'il y a aussi cette fierté nationale qui est entretenue par le parti, et puis ce contexte, ce concept de grand renouveau de la nation chinoise d'ici à l'horizon 2050 pour les 100 ans de la création de la République populaire de Chine. Et donc, c'est une fierté nationale qui est revendiquée aussi par rapport aux États-Unis, parce qu'à terme, la Chine souhaite clairement, le Parti communiste chinois souhaite clairement dépasser les États-Unis à tous les niveaux, économiques, militaires, spatial, technologiques, mais aussi dans la gestion quotidienne de crises telles que celle-ci. Et c'est pour ça aussi que la Chine communique beaucoup actuellement sur sa gestion de la crise, en contraste avec la situation aux États-Unis, pour justement souligner son avancement présumé, sa modernité, mais aussi l'usage des technologies, puisque la Chine a profité de la crise pandémique pour mettre en valeur dans les médias d'État l'utilisation de drones, de caméras de vidéosurveillance, d'applications smartphone qu'elle souhaite exporter à certains pays, en premier lieu aux pays au développement.
La Chine s'est lancée dans une communication très agressive, vous le dites, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, cette communication dite de riposte systématique, c'est-à-dire cette idée d'affirmer à la fois sa confiance et de renverser les critiques qui a valu à son ambassadeur à Paris une convocation. Pour rappel, hein, l'ambassade de Chine à Paris avait posté sur son site internet une lettre affirmant que en France, les personnels des EHPAD avaient déserté collectivement, laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie. Voilà ce qui lui a valu à cet ambassadeur une convocation. Comment vous expliquez cette agressivité?
Tout d'abord, il y a une évolution au sein du corps diplomatique chinois avec la promotion de diplomates qui sont plutôt sur une ligne dure. On le voit dans la promotion au niveau du siège à Pékin, de l'administration, on le voit dans différentes ambassades. Ensuite, de plus en plus, ces dernières années, avant la crise de la Covid-19, les diplomates chinois ont eu l'autorisation de communiquer de manière plus offensive, notamment dans les pays considérés occidentaux. Et donc c'est une tendance plus large et qui est basée sur la méthode assez visible depuis plusieurs années, qui est de dire chaque critique vis-à-vis de la Chine, chaque remise en question, chaque doute qui nous est adressé, nous ne devons rien laisser passer.
Attends, il faut y répondre.
Il faut y répondre
et éventuellement contre-attaquer.
Et contre-attaquer en critiquant celui qui nous a critiqué. Et donc on arrive à parfois des dialogues, des joutes, des assez même comiques sur les EHPAD. Ça serait comique s'il ne s'agissait pas de gens ou d'institutions derrière, mais voilà, les joutes sont rudes et ce n'est pas typique à la France. On a noté ça également en Suède ou dans de nombreux autres pays européens.
Je ne sais pas ce qu'on apprend dans les écoles, mais c'est une bonne diplomatie pour vous, Alice Ekman, dans le sens que c'est une diplomatie qui porte ses fruits. Tout dépend le but recherché.
En tout cas, c'est un langage qui n'est pas diplomatique. C'est étonnant dans la bouche des diplomates, d'entendre ces mots dans la bouche de diplomates. Ça marque une nouvelle étape dans la méthode diplomatique chinoise qui s'éloigne des standards internationaux. Parce que normalement, les diplomates sont ceux qui parlent de manière plus policée, en tout cas beaucoup plus policée que les militaires ou que les hommes politiques. Et en effet, c'est contre-productif dans certains pays. y compris la France, mais aussi d'autres pays, États membres de l'Union européenne, qui se rendent compte finalement que oui, qu'il y a vraiment une compétition, une bataille de narratif, une compétition entre systèmes politiques, que la Chine est un système politique très différent, avec une propagande organisée, etc. Donc il y a une prise de conscience d'une partie de l'opinion. Mais je relativiserais la limite ou l'effet limité de la communication chinoise, parce qu'elle prend dans d'autres pays, en fait. Hein. Et donc, aujourd'hui émerge une diversité de perceptions vis-à-vis de la Chine. La Chine est un pays de plus en plus clivant. La Chine devient un pays qui agace certains pays au niveau bilatéral, mais aussi au sein de l'OMS ou d'autres institutions multilatérales, mais aussi qui séduit encore d'autres pays finalement se félicitent du discours anti-occidental, qui se félicitent aussi d'un leadership américain qui serait disputé ou qui serait contesté. Et on note aussi, par exemple, en premier lieu, un rapprochement entre la Chine et la Russie qui se rejoignent en partie sur la communication, sur les éléments de langage qui visent à souligner le déclin de l'Occident et de l'Union européenne notamment.
Alors, il y en a un que la Chine agace profondément, en tout cas dans le verbe, là encore, une réaction totalement urticante, c'est Donald Trump, on l'écoute.
Le monde souffre actuellement à cause de la malversation du gouvernement chinois. La dissimulation par la Chine du virus de Wuhan a permis à la maladie de se propager dans le monde entier, provoquant une pandémie mondiale qui a coûté plus de 100 000 vies américaines et plus d'un million de vies dans le monde. Les responsables chinois ont ignoré leurs obligations de transparence à l'Organisation mondiale de la santé et ont fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour induire le monde en erreur quand le virus a d'abord été découvert par les autorités chinoises.
Voilà, Donald Trump parlant du coronavirus comme du virus chinois. Il y a eu durant cette épidémie, en tout cas cette première phase, parce qu'elle est loin d'être terminée, un vrai regain de tension entre les deux puissances. Où en est-on du rapport de force pour vous aujourd'hui, Alice Ekman?
Oui, le Covid-19 est arrivé dans un contexte déjà très tendu entre Washington et Pékin, puisque nous étions à une période plus de 2 ans après le début des tensions commerciales, très vives entre les États-Unis et la Chine, mais aussi tensions technologiques autour du réseau 5G, de Huawei et d'autres technologies développées par la Chine qui confortent son leadership technologique dans certains pays, dans certains secteurs. Donc les tensions étaient déjà très vives. Et l'épidémie a accéléré finalement ces tensions a ouvert de nouveaux fronts, y compris le front de la communication qui existait déjà avant, mais aussi le front juridique avec l'appel de certains États ou certaines entreprises à attaquer la Chine en justice pour les dégâts causés par la crise. Même si ces requêtes n'aboutissent pas, on a vraiment là une intensification des joutes verbales aussi dans un contexte de campagne électorale aux États-Unis. Et donc ce contexte va probablement perdurer dans les prochains mois, mais au-delà même des élections présidentielles américaines, la rivalité sino-américaine, à mon avis, est vraiment une rivalité profonde et de long terme. Pourquoi ? Parce qu'on a un consensus bipartisan aujourd'hui à Washington sur le fait que la Chine est perçue comme une menace, un relatif consensus bipartisan, même s'il y a certaines nuances entre les partis. Quel que soit le résultat des élections, la politique américaine vis-à-vis de la Chine, à mon avis, va perdurer. Mais aussi, côté chinois, on a depuis 2013 une perception vis-à-vis des États-Unis qui est très hostile, avec une volonté vraiment de dépasser les États-Unis et aussi une volonté de chercher des partenaires et des pays dits amis au-delà pour finalement marginaliser la puissance américaine autant que possible au niveau multilatéral et dans certains cas au niveau bilatéral. Donc les tensions sont vraiment très vives entre Washington et Pékin pour les raisons qu'on a évoquées, commerciales, technologiques, etc. Mais aussi parce qu'elles sont conceptuelles et idéologiques. La Chine espère à terme devenir une puissance de référence, c'est-à-dire qu'elle espère que les États-Unis ne seront plus une puissance normative, une puissance qui fait référence, qui donne le la en termes de concepts diplomatiques, qui se présente comme un modèle en termes de gouvernance, de système politique ou économique. La Chine à terme espère qu'elle pourra se présenter comme un modèle pour le monde et promouvoir un système politique alternatif à celui qui a été promu par les États-Unis, et donc un système politique alternatif à celui des démocraties.
Alors l'un des champs de bataille de cette rivalité pendant la crise du coronavirus, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sujet d'un documentaire à voir prochainement sur Arte, je vous en parlais déjà le 30 juin. En première partie de soirée, Chine USA, la bataille de l'OMS, la Chine, alors que les États-Unis ont tourné le dos à l'organisation, est elle bien présente dans les instances internationales comme l'OMS. Est-ce qu'elle va accepter les règles du jeu de cette organisation-là, ou est-ce qu'elle y est pour essayer de les faire changer?
C'est la deuxième option, clairement, sans aucun doute. La Chine investit depuis plus de 10 ans, même 15 ans aujourd'hui, massivement dans les organisations multilatérales. En premier lieu, le système onusien, dont l'OMS fait partie, en espérant restructurer ses institutions de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle considère que par une participation plus active, par un activisme, par un lobbying, elle pourra renforcer son influence, renforcer ses capacités à promouvoir ses intérêts dans ses institutions, renforcer sa capacité à promouvoir certains projets tels que les nouvelles routes de la soie ou d'autres concepts diplomatiques. Et à terme, elle compte même redéfinir les termes et les valeurs ou les principes de ces organisations. Pour être plus précise, par exemple, à l'ONU, la Chine essaye, depuis plusieurs années, de redéfinir le terme de droit de l'homme en le redéfinissant comme un accès à la prospérité plutôt qu'aux libertés fondamentales. De même, en étant active dans ce qu'on appelle les architectures de cybergouvernance, elle espère redéfinir la notion, la définition de l'Internet, qui serait un Internet souverain, où le rôle de l'État dans la gestion du réseau serait plus forte. De même, vis-à-vis de, toujours à l'ONU, la Chine est opposée au concept de responsabilité de protéger et espère promouvoir des concepts qui, à terme, empêcheront les changements de régime, qu'ils soient en Corée du Nord, au Venezuela ou en Syrie. Donc on a vraiment là, pas uniquement un activisme institutionnel pragmatique pour promouvoir ses intérêts, même si cet activisme existe et il est là, c'est-à-dire que institution par institution, la Chine analyse sa marge, en fait, finalement, d'influence et ce qu'elle pourrait faire évoluer pour promouvoir ses intérêts de manière pragmatique, mais il y a aussi une dimension normative et idéologique pour revoir les concepts qui dérangent, qu'elle considère être illégitimes, parce que la Chine officiellement s'oppose au concept de valeur universelle ou de concept communément accepté par la communauté internationale.
Mais du coup, le retrait des États-Unis d'une organisation comme l'OMS, c'est pas très stratégique, ou au contraire, c'est de dire bon, je laisse ce champ-là entre les mains de la Chine. Pourquoi se retirer du champ de bataille en plein combat?
C'est à la fois dans l'intérêt de la Chine, peut-être à court terme, mais à long terme, ça décrédibilise aussi une institution, parce qu'une institution qui n'arrive plus à réunir autour de la table de négociation la première et la deuxième puissance économique mondiale, c'est pas vraiment une organisation internationale. Donc à terme, ce n'est pas peut-être dans l'intérêt de la Chine de voir ce retrait progressif. Mais
on vide un peu la coquille.
À court terme, la Chine comble le vide au maximum en renforçant notamment sa participation financière. Elle va continuer à renforcer son activisme au sein de l'OMS et d'autres institutions. Un moment où elle essaye de se positionner comme le meneur de la sortie de crise de la Covid-19. Ça pourrait paraître contre-intuitif, mais elle essaye aujourd'hui réellement de se positionner comme telle vis-à-vis d'un certain nombre de pays, donc en apportant ce qu'elle considérait des solutions logistiques, médicales, mais aussi à terme économiques et technologiques.
Pour expliquer toutes ces réactions et prises de position, vous racontez dans ce livre, Alice Ekman, le ressentiment anti-occidental qui reste très fort, notamment au sein de l'élite dirigeante chinoise, entre complexe d'infériorité, revanche de l'histoire et affirmation de sa puissance. Rouge vif, l'idéal communiste chinois, c'est le titre de votre essai, qui a donc remporté cette année le prix du livre géopolitique paru aux éditions de l'Observatoire. Il est 13h18 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et ce qui est intéressant, et vous le racontez, c'est que d'une certaine manière aujourd'hui, Pékin semble vouloir exporter son modèle. La Chine évoque, écrivez-vous, sans détour, l'expérience ou la situation chinoise ou la solution chinoise pour le monde, et appelle un nombre croissant de pays à apprendre de la Chine, à suivre l'exemple de Pékin dans leurs décisions économiques, mais aussi politiques et sociales. Par quoi passe-t-elle pour exporter ce modèle ?
Par différents canaux, il y a par exemple le canal de la formation des élites politiques de certains pays, notamment les pays africains. La Chine propose des programmes de formation aux fonctionnaires et ces programmes de formation justement transmettent le système de réforme et le système politique chinois. Explique comment la Chine fonctionne et pourquoi il ne faut pas hésiter à s'inspirer de la Chine si l'on veut à terme espérer parvenir à un développement économique rapide, si l'on veut pouvoir mieux gérer par exemple les mouvements sociaux, ou si l'on peut si on veut vouloir mieux gérer ce qu'ils appellent être des tensions ethniques etc. au sein du territoire. Donc en fait la Chine se positionne comme modèle en proposant des systèmes des programmes de formation à un nombre croissant de pays. Au début ces programmes de formation étaient proposés aux pays en développement, dits en développement, et aujourd'hui ils sont proposés aux pays dits membres des nouvelles routes de la soie. Donc sous ce cadre assez large des nouvelles routes de la soie, puisqu'aujourd'hui elle inclut plus de 160 pays et organisations internationales selon la communication officielle chinoise, sous cette étiquette assez large, la Chine souhaite réellement se positionner comme un modèle vis-à-vis d'un nombre croissant de pays. Alors il n'y a pas que les programmes de formation, il y a le financement par exemple d'académies diplomatiques comme en Tunisie où la Chine espère justement former donc des diplomates, mais au-delà donc justement des programmes de formation, il y a le développement des réseaux de médias chinois en langue étrangère, réseaux qui vantent aussi les succès de la Chine et l'efficacité de son système politique. Il y a aussi un nombre croissant de forums qui sont organisés par la Chine sur son territoire, forums qui aussi font la promotion des grandes décisions prises par la Chine, des avancées économiques, etc. Donc énormément de promotion à différents niveaux. Il est très difficile de savoir aujourd'hui quel est finalement l'impact de cette promotion, mais je pense qu'il est important vraiment aujourd'hui de prendre acte de cette volonté de promotion d'un modèle alternatif, parce que ça passe aussi par des investissements, ça passe aussi par un accompagnement technique et pratique. Concrètement, la Chine propose, toujours dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie, la construction de zones économiques spéciales par exemple dans d'autres pays, que ce soit en Éthiopie ou en Biélorussie, sur le modèle de zones qu'elle a développées sur son propre territoire. Parce que la Chine a des entreprises aujourd'hui qui sont compétitives dans le secteur du BTP, mais aussi des entreprises compétitives dans le secteur des nouvelles technologies. Par cette compétitivité, elle promeut de facto des services et des produits qu'elle a déjà testé sur son territoire, selon des normes, des standards et un système de gouvernance qui est d'influence chinoise. Donc on a bien réellement, même si ce discours ne prend pas toujours au sein des élites cibles, le discours sur le modèle chinois et son attractivité, de fait, parce que la Chine est capable de proposer des projets d'infrastructure sur le terrain, elle peut orienter le système de développement d'un pays ou la structuration de pays vers un système chinois.
Et cette politique d'expansion, vous la labellisez aussi rouge vif, c'est communiste ?
Alors, dans cette promotion, la Chine insiste moins sur la dimension idéologique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, mais elle valorise davantage l'accès au développement économique, la croissance à deux chiffres qu'elle avait atteint au cours des précédentes décennies, même si ce n'est plus le cas. Donc, elle insiste sur la dimension pragmatique, mais lorsqu'on échange avec des diplomates chinois, ou même avec des personnes qui justement forment des diplomates étrangers ou des représentants officiels étrangers. Et réellement, on note vraiment une dimension idéologique forte, avec le fait de considérer que le communisme est un idéal vers lequel l'humanité entière doit tendre. Et là, ça a fait écho finalement à certaines paroles qu'on entendait sous l'ère Mao.
Alors la Chine a sa zone d'influence dans son giron aussi, notamment Hong Kong. Pékin a choisi d'imposer une loi de sécurité sur la sécurité à Hong Kong. Il la soutient, cette loi. Carrie Lam, le chef de l'exécutif de Hong Kong, on l'écoute.
La législation sur la sécurité nationale ne visera qu'une très petite minorité d'activités et d'actes illégaux et criminels. Les libertés et les droits fondamentaux de la majorité écrasante des citoyens seront protégés. Par-dessus tout, je rétablirai la stabilité à Hong Kong. J'appelle à votre entière compréhension et à votre soutien indéfectible pour la mise en place d'une législation sur la sécurité nationale à Hong Kong.
Voilà, la chef Carrie Lam qui appelle donc Hong Kong à soutenir cette loi. Pourquoi Pékin choisit, dans ce moment particulier, d'imposer cette loi ? C'est une forme de provocation pour vous ?
Tout d'abord, la Chine a essayé de promouvoir différentes lois, différentes décisions vis-à-vis de Hong Kong au cours des dernières années. En fait, c'est régulier. Chaque fois, la Chine, il y avait une proposition de loi d'extradition. Là, donc, c'est sur une loi sur la sécurité nationale. Proposition de loi sur le mode de nomination de l'exécutif hongkongais. Donc, ça fait partie d'un calendrier assez régulier, finalement, de propositions qui visent à terme à harmoniser le territoire pour que Hong Kong perde ses spécificités politiques et juridiques. Après, il y a un calendrier plus précis puisqu'il y aura des élections législatives à Hong Kong en septembre. Donc, il y a bien sûr aussi ce calendrier électoral qui entre en compte, en ligne de compte. Mais de manière générale, la Chine considère que Hong Kong doit à terme être pleinement intégré au territoire chinois. Et c'est une priorité pour la Chine. Et c'est déjà un point de tension qui s'est internationalisé puisqu'on a noté de fortes réactions américaines, mais pas uniquement, de ministères des Affaires étrangères du G7, de l'Union européenne. Et la Chine riposte systématiquement, selon la méthode à laquelle on faisait référence précédemment, elle riposte en disant qu'elle n'accepte pas les déclarations des pays du G7, de l'Union européenne, des États-Unis. Et donc, Hong Kong restera un point de tension pendant longtemps, de mon point de vue, et avec un risque d'escalade des tensions, pas uniquement au niveau régional, mais au niveau international. Et au-delà de Hong Kong, il y a aussi la situation à Taïwan, même si elle est différente. Taïwan reste un objectif de réunification pour Pékin, alors le calendrier reste flou.
C'est peut-être le prochain front, en tout cas.
Mais c'est déjà actuellement un front avec un risque d'escalade des tensions très fort.
Rouge vif, l'idéal communiste chinois, Alice Ekman, c'est donc le titre de cet essai-document paru aux éditions de l'Observatoire. Vous avez une casquette de chercheuse, de sinologue, mais vous avez aussi une casquette très simple, la vôtre, plus intime, plus personnelle. Et c'est avec votre téléphone portable que vous êtes partie à la rencontre d'un grand-oncle suite à une conversation qui vous a mis un peu la puce à l'oreille. Ça a donné un film, Mathilde et Rosette, qui est en accès libre en ce moment sur le site de France Culture. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette quête que vous avez mise en image ?
Oui, alors je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec le sujet dont on parle actuellement, et c'est vraiment deux casquettes très différentes pour moi qui ne sont pas toujours faciles à présenter au même moment. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, oui, je pense qu'on peut faire plusieurs choses dans la vie, et puis il y a toujours parfois des sujets qui nous taraudent ou qui nous titillent, et parfois il est important de les prendre de front, surtout quand l'opportunité se présente ou quand c'est le moment. Moi, concrètement, j'ai eu au téléphone un grand-oncle qui m'a parlé de l'histoire familiale, et c'était le moment, parce qu'il avait 92 ans, le temps passe et les témoignages s'effacent, et face à la force du témoignage, j'ai décidé en effet d'enregistrer ce témoignage, de le filmer avec mon smartphone, au départ pour la famille, pour justement, puisque nous connaissions peu de choses pour partager ce témoignage à la famille, et puis face à la force du témoignage, mais aussi avec la découverte de documents, dont un registre d'école, puisque la scène se passe à Lens, en premier lieu, dans le Pas-de-Calais, un registre d'école primaire d'attente de l'époque de guerre. Enfin, plusieurs découvertes au fur et à mesure de cette quête personnelle.
Est-ce qu'il y a un grand secret, ou il y a du secret, comme souvent dans les familles ?
Mais oui, dans toutes les familles, il y a du secret.
Et c'est lui que vous percez à jour.
Et justement, je ne souhaite pas en dire plus ici, parce que j'ai essayé de tendre à la dimension universelle. C'est-à-dire que ma famille a une histoire propre, dans le nord de la France, j'en dis pas plus justement, parce que je pense que chaque famille a ses secrets, mais aussi je pense que le poids de l'histoire parfois met plusieurs générations pour être transmis, avec parfois même un saut de génération tellement l'histoire est lourde, traumatique, et c'est parfois à la troisième ou à la quatrième génération d'assumer la mission de révéler ses secrets de famille ou d'écouter les derniers témoins avant qu'ils meurent.
Alors on se quitte avec un extrait autour du secret sans révéler le secret.
Vous n'avez pas expliqué tout ce qui s'est passé à mon père, à Joe, à papy, toi vous n'avez pas, parce qu'eux ils ne connaissaient pas la déportation.
Ah ben non, je vais te dire, on ne voulait pas en mettre trop dans la tête, parce qu'on était passé par des événements tellement... on est des survivants.
Vous ne voulez pas traumatiser les enfants. C'est surtout ça, à l'époque, après la guerre, ceux qui avaient souffert, ne voulaient pas traumatiser leurs enfants, alors on n'en parlait pas. Et puis les petits-enfants veulent savoir. Donc ça jupe d'une génération. Une génération non, et la deuxième génération veut savoir. C'est bizarre, hein? Non, il faut continuer à vivre. Et prendre le petit bonheur quand il arrive.
Voilà, on comprend que cette histoire est liée à la Seconde Guerre et que les choses à dire sautent parfois plusieurs générations, qu'effectivement il y ait question de secret, mais aussi de mémoire et d'oubli. Merci beaucoup à vous, Alice Ekman, d'avoir été avec nous. Ce film personnel, familial, intime, est à voir, Mathilde et Rosette, en accès libre sur le site de franceculture.fr. Merci.
Merci à vous.
Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Bruno Barador, Yann Delacroix et Henri Leblanc pour la programmation de cette émission, à Laura Dutèche-Pérez avec Philomène Villard et Marceau Vassy pour sa préparation à la réalisation aujourd'hui. C'était Anna Holweck avec Jacques Hubert à la technique. Merci à tous. Très bel après-midi sur France Culture.